Bonjour. Aujourd'hui, on explore plusieurs aspects, plusieurs points chauds de l'actualité africaine. On s'appuie sur des sources récentes.
Oui, on va regarder de plus près l'accord sur les chagos, la situation un peu tendue à Bouya, au Cameroun, et puis la vitalité des startups.
Exactement. L'idée, c'est de décrypter un peu les enjeux derrière les gros titres. Bon, allons-y. Premier sujet donc, l'archipel des chagos. Le 22 mai, on a appris cet accord. Le Royaume-Uni reconnaît enfin la souveraineté de Maurice. C'est quand même un moment historique.
Ah oui, absolument. Après des décennies de litiges, c'est majeur. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le compromis trouvé.
C'est-à-dire ?
Ben en gros, Londres reconnaît la souveraineté, d'accord, mais conserve un bail de 99 ans sur l'île clé de Diego Garcia.
Ah oui, la fameuse base militaire anglo-américaine. Exactement. Stratégique. Et ce bail, ce n'est pas rien, hein ? On parle d'un loyer annuel de 101 millions de livres, soit environ 120 millions d'euros, quand même.
Oui, et il faut se souvenir de l'histoire, l'expulsion des habitants, à peu près 2000 personnes en 1968, une histoire terrible.
Tout à fait. Et puis, l'avis de la Cour internationale de justice en 2019, qui demandait déjà la restitution. Donc ce bail, bon, il assure des revenus, mais il ancre aussi une présence militaire pour un siècle.
Ça pose question sur la souveraineté réelle, au-delà du symbole. Et puis, il y a la dimension humaine.
Oui, justement.
Le sort des Chagossiens expulsés. Cet accord ne semble pas garantir leur droit au retour, si.
Non, pas vraiment. C'est le point sensible. D'ailleurs, la Haute Cour de Londres a récemment rejeté un recours de deux ressortissantes chagossiennes sur ce sujet. Donc, une résolution diplomatique d'un côté, mais une blessure humaine qui reste ouverte de l'autre. C'est complexe. Passons à une autre situation moins médiatisée, mais qui perdure. Bouya, au Cameroun.
Ouais, une crise silencieuse, mais bien réelle.
L'apparence est calme, dit-on, mais la présence militaire est forte, la tension palpable. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Alors, il faut replacer ça dans le contexte de la crise anglophone qui dure depuis 2016. Elle oppose des séparatistes au gouvernement central.
Avec des racines historiques profondes liées à la division postcoloniale, c'est ça ?
Exactement. Un sentiment de marginalisation côté anglophone. À Bouya, aujourd'hui, ça se traduit par quoi ? La ville accueille beaucoup de déplacés internes. Ça met une pression énorme sur les infrastructures, la santé, l'économie. Et puis, il y a une méfiance très forte envers l'État, surtout qu'on approche de l'année électorale 2025.
Et le conflit lui-même, il évolue ?
Oui, et c'est ça qui est compliqué. Il s'est morcelé. Ce n'est plus un front unique, mais plein de petits groupes armés. Ça rend l'insécurité très diffuse.
Un conflit un peu gelé, ou en tout cas silencieux médiatiquement. Pourquoi on en parle si peu ?
C'est difficile à dire. Peut-être la complexité, l'accès difficile pour les journalistes. Mais les ONG, elles, alertent sur la dégradation humanitaire qui continue.
C'est ce paradoxe qui est troublant. Une crise grave, mais loin des projecteurs. Bon, changeons complètement de registre. Une note plus optimiste. L'économie, la tech, les start-up africaines.
Ah oui, ça bouge pas mal de ce côté-là. Hein. Un chiffre clé. 13 pays africains dans le top 100 mondial des écosystèmes de start-up, selon Startup Blink. C'est significatif.
Tout à fait. Ça montre une vraie progression, une maturité qui s'installe. L'Afrique du Sud mène la danse sur le continent, 52e mondial, puis le Kenya, l'Égypte, le Nigeria.
Lagos et le Caire sont même dans le top 100 des villes.
Voilà. Ce classement regarde la densité des start-up, bien sûr, mais aussi leur qualité. Les levées de fonds, les licornes qui émergent et l'environnement des affaires en général.
Et on voit des pays qui progressent bien.
Oui, on note de belles progressions. La Tunisie gagne 8 places, le Ghana 7, le Maroc 4, même si certains poids lourds comme le Nigeria ou le Sénégal reculent un peu cette année.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? Quel impact ? Mais potentiellement, c'est énorme. Création d'emplois qualifiés, de l'innovation qui répond à des besoins locaux. On pense à la fintech, la agritech, la e-santé. Et à terme, ça peut aider à diversifier les économies.
Diversifier au-delà des matières premières, par exemple ?
Exactement. Mais attention, les défis restent importants. Hein. Le financement, les infrastructures, la gouvernance, le cadre réglementaire, faut que ça suive.
Ok, donc pour résumer rapidement, on a cet accord au chagos, majeur diplomatiquement, mais qui laisse des questions en suspens.
Oui, surtout sur le plan humain et la portée de la souveraineté.
Ensuite, la crise persistante, discrète mais grave au Cameroun anglophone.
Une situation interne très complexe et préoccupante.
Et enfin, cet élan entrepreneurial dans la tech, très prometteur pour l'avenir du continent.
Voilà. Et ça soulève une question importante, je trouve. Comment ces différentes trajectoires s'influencent ?
Bonne question.
Est-ce que l'essor économique peut aider à apaiser les tensions politiques ou est-ce que l'instabilité, au contraire, risque de freiner ce potentiel? Et puis, quel équilibre entre une souveraineté retrouvée, comme au Chagos, et de nouvelles formes de dépendance, comme ce bail de 99 ans?
Beaucoup de dynamique en jeu, effectivement. De quoi continuer à réfléchir. Merci pour cet éclairage.
Merci à vous.